Bonsoir, vous venez d'embarquer dans le sous-marin pour une heure d'actu étudiante, culturelle, politique, associative, économique ou sociale. Notre sous-marin n'est pas jaune, mais il fait bon y passer une heure tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 19h à 20h. Nous avons un tas de scaphandriers à votre disposition, quelle que soit votre taille et votre goût. Je suis Tiffaine pour vous accompagner pendant cette heure au fond de l'eau. Mon équipage change tous les soirs et en ce lundi et en période d'examen, me voilà en compagnie d'Anne-Marie pour sa chronique économie en milieu d'émission. Et avec la collaboration enregistrée de Charlotte pour le traditionnel journal des sports du lundi. Ce soir, nous allons nous pencher sur la question des élections municipales vues par les médias. Quel traitement médiatique va leur être consacré? Pour en parler avec moi, Yves Boiteau, journaliste et rédacteur en chef à Angers-Mac, bonsoir.
Bonsoir.
Yves Trécadurant, chef de rédaction au Courrier de l'Ouest à Angers, bonsoir.
Bonsoir.
Et Arnaud Vajdic, directeur départemental de Ouest-France, bonsoir.
Bonsoir.
En fin d'émission, vous retrouverez comme chaque jour l'agenda et la bulle sonore. Tout le monde est à son poste, c'est parti. Avant de s'immerger entièrement dans la discussion de ce soir autour du traitement médiatique des élections municipales, je vous propose d'écouter Father John Misty avec Hollywood Forever Cemetery Sings. Dans 2 mois et 10 jours aura lieu le premier tour des élections municipales, mais déjà, bien sûr, les candidats sont au travail et forcément, les journaux aussi. Pour en parler dans le sous-marin ce soir, je suis donc en compagnie d'Yves Boiteau d'Angers-Mag, d'Yves Trécadurant du Courrier de l'Ouest et d'Arnaud Vajdic de Ouest-France. Merci d'abord à vous trois d'avoir accepté l'invitation du sous-marin. Première question donc, quand a commencé pour vous la campagne électorale et quel était l'élément déclencheur ?
Ça a commencé en 2008, en fait.
Arnaud Vajdi.
Avec les élections municipales qui ont lieu il y a 6 ans, où déjà ça pouvait être considéré comme un premier tour qui allait préfigurer de ce qui allait se passer cette fois-ci. Non, la campagne, elle a commencé pour nous. C'est difficile à dire, hein, parce qu'on attend les candidats, les déclarations de candidature, et puis ça vient un petit peu au fil de l'eau. Moi, je dirais qu'elle a réellement commencé au mois de septembre. Même si déjà au mois d'août et au mois de juillet, il y avait quelques interviews, quelques déclarations du maire notamment, qui étaient intéressantes à suivre.
Moi, je remonterais un peu au-delà, janvier 2012, au moment de la succession très chahutée de Jean-Claude Antonini, quand Frédéric Béatz a été installé par la majorité municipale, et ça a été vraiment le déclencheur de cette campagne. C'était vraiment la guerre de succession était déjà ouverte.
Yves Boiteau.
Alors, c'est un petit peu délicat parce que moi, je n'étais pas là lors de ce...
Il n'était pas né, lui.
Ce qui était qualifié comme un putsch par certains, donc en janvier 2012. Je n'étais pas là pour Angemag, en tout cas. Donc, pour Angemag, pour répondre à votre question, ça a démarré, pareil, je dirais plutôt pour cette rentrée-ci en septembre, quoi. Sachant que déjà avant, quand on suivait bien la politique municipale, la campagne était déjà en train de se préparer, dès le printemps dernier.
Alors, les candidats ne sont pas les mêmes qu'en 2008. Les médias ont évolué aussi. Concrètement, comment la campagne de cette année sera différente de celle que vous avez connue en 2008?
On en parlait il n'y a pas très longtemps lors d'un débat au Club de la Presse. C'est vrai que les réseaux sociaux, c'est un élément important aujourd'hui. Alors, maintenant, je ne sais pas si c'est fondamental pour la campagne et si ça aura une influence sur les votes. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses qui se disent aujourd'hui sur Twitter, par exemple, où des comptes anonymes même qui se créent et qui diffusent certaines fausses informations parfois que nous nous gardons bien de reprendre, sauf pour faire des sujets ou des billets éventuellement. En quoi elle est différente? Je ne vais pas vous dire Internet, parce qu'il y en avait un petit peu en 2008, encore que non, c'était quand même un peu moins important qu'aujourd'hui. Donc la couverture sur Internet, ce sera quelque chose qui, effectivement, sera un changement par rapport à 2008, dans ce qui nous concerne, par exemple.
Moi, je n'étais pas là en 2008, donc c'est difficile de comparer.
Simplement,
ce qu'on peut dire, c'est qu'en 2008, il y avait un candidat qui sortait d'un mandat. Là, on a des maires nouveaux, si on accepte le fait que Frédéric Béatz a hérité de la fin du mandat d'une manière... interne, on va dire, pas forcément de manière... pas élu au suffrage universel en tant que maire, en tout cas. Donc ce sera vraiment une première. Donc de ce point de vue-là, c'est un peu une élection nouvelle. Et puis, évidemment, c'est vrai, on le disait, mais les réseaux sociaux jouent une importance vraiment très importante aujourd'hui. Et les candidats l'ont bien compris, ils s'en servent déjà beaucoup plus. Ce qui fait que notre approche à nous est un petit peu différente de ce qu'elle a pu être par le passé.
Vous vouliez ajouter quelque chose?
Non, j'ai pas grand-chose à ajouter par rapport à ce qu'ont dit mes confrères. Il y a la configuration politique qui est un petit peu différente, mais en termes de couverture médiatique, je suis pas sûr qu'il y aura énormément de nouveautés, excepté effectivement l'impact des réseaux sociaux sur les fuites, sur le bluff, parce que c'est aussi ça ce que font circuler ces réseaux sociaux. C'est devenu un outil de propagande puis de campagne politique.
Ah, le vilain mot.
Les réseaux sociaux, justement, c'est un outil de communication pour les candidats. Mais est-ce que ça a vraiment un impact sur le choix de vos sujets, sur comment vous fonctionnez en termes de sources aussi? Parce que vous parliez de propagande, vous parliez de fausses informations. Comment ça fonctionne?
Précisément, moi, j'ai un exemple assez récent où j'ai eu un échange comme ça avec des internautes, des tweetos. Parce qu'on avait repris une information qui était apparue sur un blog, comme ça, qui est un blog anonyme. Sauf que cette information, après vérification, s'est avérée vraie. Et que, du coup, on l'a exploitée, après avoir croisé, fait le boulot, quoi. Et justement, j'ai été interpellé sur Twitter en me disant, mais comment vous pouvez, vous, donner du crédit à des blogs anonymes qui balancent des infos, des fausses infos, des rumeurs, etc. Et la réponse que je leur ai faite, c'est Twitter, comme Facebook, comme tous les différents réseaux sociaux, c'est aussi une source d'information. Cette source d'information, comme toutes les sources, elle nécessite d'être vérifiée. Mais pour nous, c'est évident qu'il faut être en vigilance par rapport à ça. C'est une donnée qui a quand même changé pas mal depuis 6 ans. Hein.
C'est vrai que là, la particularité, c'est qu'il y a beaucoup de blogs anonymes qui se sont créés pour cette campagne. Certains, souvent ceux qui les animent, font partie d'un camp ou de l'autre, et forcément sont très bien informés sur des événements politiques ou des projets de campagne ou autres. Donc nous, le fait d'être en alerte sur ces blogs-là, c'est pas choquant. Après, comme disait Yves, il faut vérifier ces infos, c'est ce qu'on fait.
Alors, je sais que Yves Trécadurant, Arnaud Vajdic, vous êtes sur Twitter, j'ai vu vos comptes, j'ai pas vu le vôtre, Yves Boiteau,
est-ce
que
non,
vous
y êtes ? Non, je n'en ai
pas. Il est contre.
Alors, ce choix, justement, de ne pas y être, pour quelle...
C'est un choix du moment, peut-être que ça évoluera, mais en tout cas dans l'immédiat, je ressens pas le besoin d'être présent sur Twitter. Alors ça peut paraître paradoxal pour quelqu'un qui est rédacteur en chef, en plus d'un site internet, qui était d'ailleurs avant d'être un magazine, un site internet. D'ailleurs, au sein même de la rédaction, on n'a pas tous les mêmes points de vue non plus sur le sujet, parce que j'ai des confrères au sein d'Angéma qui sont beaucoup plus actifs que moi là-dessus. Moi c'est un choix parce que j'ai l'impression que ça me manque pas pour travailler. J'ai pas l'impression d'en avoir besoin pour travailler. Alors, sachant que c'est pas parce qu'on n'est pas sur Twitter qu'on ne peut pas consulter certaines choses qui se passent sur Twitter, hein, je précise. Mais moi, j'ai pas envie parce que j'ai l'impression que c'est extrêmement chronophage. Déjà, je trouve que suivre les réseaux sociaux, ça l'est, que le boulot est déjà suffisamment contraignant comme cela. Et pour l'instant, j'en ai pas jugé une plus-value suffisante pour m'y mettre, tout simplement. Peut-être que ça évoluera, mais j'en ressens pas le besoin.
Alors, jusqu'ici, quel type d'informations vous traitez les uns les autres? Est-ce que c'est les communiqués qu'on reçoit dans les boîtes mail, tous les mails de Aimé Angers, Servir Angers? Quelle place vous leur donnez à ces communiqués-là? Les conférences de presse, comment vous les traitez? Et au final, comment vous vous démarquez les uns des autres, vu que vous avez, a priori, les mêmes informations?
Mais il y a ce qui se dit officiellement par les candidats, et puis il y a aussi ce qui se dit pas. Donc, ce que nous, on va aller chercher comme information, hein. Les alliances éventuelles, oui, effectivement, il y a une partie où on est sollicité, il y a des conférences de presse, chaque camp fait sa conférence de presse pour annoncer un temps fort de la campagne, que ce soit sur le thème de la culture, l'économie, etc. Donc ça, on le relate de manière, d'ailleurs, beaucoup plus succincte, je trouve, qu'en 2008, où il y avait des papiers plus importants sur chaque conférence de presse. Aujourd'hui, nous, il me semble qu'on ne donne pas la priorité forcément à ce type de papier, mais plutôt... plutôt à l'analyse, ou plutôt si le projet vraiment sort du lot dans cette campagne. Là, on essaie de mettre un accent un peu plus important sur ce projet-là. Enfin, il me semble, moi, c'est comme ça que je vois les choses.
Non, mais c'est dimensionné par rapport à l'intérêt de l'information qui est délivrée. Si, lors d'une conférence de presse, effectivement, il y a un projet, une idée, un partenaire sur une liste, on peut développer si le sujet le mérite. Et puis après, si c'est relativement succinct, c'est relativement succinct dans le journal. Et puis on fait notre boulot par ailleurs, on va chercher les infos, effectivement, qu'on ne veut pas forcément nous donner d'office. Et puis on va, nous aussi, envisager la campagne un petit peu différemment. C'est-à-dire qu'on ne veut pas être qu'à la remorque de ces conférences de presse, qui sont très cadrées, très ciblées, très écrites. On va aussi, nous, mettre un petit peu les candidats sur le grill, sur des questions qui nous paraissent fondamentales sur la campagne, et ça permettra à nos lecteurs de comparer les différentes réponses. Voilà, alors on a des réponses un petit peu originales, un peu sympas, un peu modernes, mais il faut garder un peu l'effet de surprise.
On a procédé un peu de la même manière, nous, en posant des questions aux candidats dès le numéro du mois d'octobre. Alors, quand on est un mensuel, de toute façon, on n'a pas beaucoup de numéros dans l'année, donc il fallait qu'on anticipe. Et l'idée, c'était de poser des questions dès le mois d'octobre, sachant que sur beaucoup des dossiers, ils étaient déjà connus, déjà sur la place publique, sans attendre la campagne. Et on reviendra dans un numéro prochain sur les réponses des candidats, pareil, pour les comparer. Et puis les présenter de façon finalement assez factuelle, parce qu'au bout d'un moment, ce sont quand même bien les propositions qui sont contenues dans le programme qui sont intéressantes, quoi. Un mot sur les conférences de presse thématiques. Moi, je trouve qu'elles sont pas si inintéressantes que ça. C'est vrai que on a le sentiment parfois d'être à la remorque du rythme donné par les candidats, mais je trouve qu'elles ont un gros avantage dans les conférences de presse thématiques, c'est qu'au moins, c'est sur un sujet, on sait ce que propose ou ne propose pas un candidat. Alors nous, on n'a pas les moyens pour les suivre toutes, c'est clair, donc on en fait celles qu'on juge importantes.
Alors c'est comment vous les triez, justement?
En fonction de l'intérêt qu'on y voit. Voilà. Pour l'instant, on essaye à peu près, on peut pas toutes les suivre, on essayé d'en suivre certaines principales. La semaine dernière, la présentation des propositions de Christophe Béchu sur la dimension sociale et solidarité, ça nous a paru important. Et puis, on a suivi également celle de Laurent Gérault sur ce qui apparaît comme l'une de ses marques de fabrique de cette campagne, c'est-à-dire la rigueur budgétaire. Hein, voilà. On a tenu à y être présent aussi parce qu'on jugeait que c'était une conférence de presse qui était intéressante. Mais maintenant, d'autres pourraient avoir une autre vision.
Alors, Yves Trécadurant, vous parliez tout de suite de la pêche aux infos. Comment ça se passe quand on est un journaliste installé à Angers, qu'on connaît plus ou moins bien les politiques, qu'on doit peut-être parfois prendre un café, voire déjeuner avec eux, pour trier les infos qu'on nous donne? Quelle est en fait votre vision du off en tant que journaliste?
Alors moi, je considère que le off, c'est quelque chose qui se dit explicitement. C'est-à-dire que quand je prends rendez-vous avec quelqu'un, un homme politique, un proche, etc., c'est pas un copain. Voilà, on peut avoir des relations cordiales, On peut s'apprécier ou pas, peu importe. Nous, on reste un journaliste et quand on croise quelqu'un, s'il nous parle, ce sont pas des grands naïfs. Et bien souvent, ils en profitent pour distiller comme ça quelques petites infos. Donc, effectivement, quand il y a vraiment du off, qu'il y a quelque chose qui peut s'exprimer comme ça, c'est précisé. Et bon, moi, je m'astreins à une chose, c'est-à-dire que quand je promets quelque chose, je m'y tiens. Voilà. Maintenant, bien souvent, le off, c'est pas vraiment du off. C'est une manière de dire sans dire, tu le tiens pas de moi, mais sache que. Voilà.
Donc, c'est une question de timing, quelque part. Quand on vous donne une info en off, ça a pour but d'être publié un jour ou l'autre, mais pas forcément maintenant, quoi. C'est comme ça que je vois les choses. Donc après, il faut entretenir le relationnel avec la personne qui vous a donné cette information-là, et puis essayer de trouver le bon timing pour publier cette info. C'est pas forcément là au moment où elle vous la donne. Ça peut être dans 3 jours, 1 semaine, 2 semaines. On peut aussi l'avoir obtenu par une autre source après pour ne justement pas trahir ce off-là. Enfin, il y a des, voilà.
Il y a des astuces.
C'est même nécessaire parce qu'il faut croiser les sources pour vérifier.
Vérifier l'information. Mmh. Yves Boiteau,
et puis oui, non, et puis de pas être du off quoi. Il y a du off qui n'est pas tant du off que ça. Enfin, il y a beaucoup de nuances à mettre là-dedans parce que effectivement, comme le disait Yves, c'est parfois les choses nous sont glissées de façon très intentionnelle quoi. Et il appartient ensuite de vérifier effectivement les informations pour voir si ça a un intérêt ou pas. Et parfois, ça n'en a pas d'ailleurs. Il y a parfois du off qui ne mérite même pas d'être traité ensuite.
Jusqu'où est-ce que vous êtes prêt à aller pour vous démarquer de vos concurrents, qui sont en fait, vous êtes tous les trois autour de la table. Est-ce que vous allez vous servir de buzz? Est-ce que vous êtes prêt à ce genre de démarche? Comment ça se passe? Comment pour vous démarquer les uns des autres?
La qualité.
La qualité. Quoi, le buzz, c'est la qualité.
Le buzz, il y en a force. Enfin, ça dépend des types d'informations. Il y a des informations qui font pas de buzz du tout. En politique, d'ailleurs, c'est rarement le cas, sauf exception. Je dirais que c'est pas faire le buzz pour faire le buzz, mais à un moment donné, oui, il faut quand même que l'information politique qui peut paraître institutionnelle, on puisse la rendre aussi sexy, on va dire, vis-à-vis du grand public. Ça, c'est toujours un peu compliqué, quoi.
Comment vous faites, par exemple, à Ouest France pour rendre une info sexy?
Ça dépend du type d'info, puis de la présentation. Après, ça dépend du traitement aussi. On peut faire du traitement sous forme de billets ou de choses comme ça. Là, je peux pas dire parce que ça dépend vraiment du type d'information.
Pardon, Yves Boiteau.
Non, moi, je me situe pas trop dans la concurrence, mais parce qu'on a un rythme de publication qui n'est pas le même. Et c'est vrai que sur le mensuel, il n'y a pas de fait. Comme on a un mensuel, on se démarque en termes de publication. Ensuite, nous serait plutôt du côté de l'humour qu'on irait chercher parfois les choses, quoi.
Comme votre une du mois de décembre.
Comme la une du mois de décembre, voilà, avec la crèche de Noël et les 5 candidats.
Scandaleuse.
Les 5 candidats connus. Pour ce qui est du web, moi, j'ai pas une ambition qui est énorme. Je cherche pas à tout prix à me démarquer parce qu'on n'a absolument pas les moyens de Arnaud pour Ouest France et de Yves pour le Courrier de l'Ouest, d'être présent, d'avoir des scoops, quoi. Quand on en a un, c'est super, mais il n'y a pas la chance.
J'en avais eu un beau.
On en a eu un beau, c'est vrai.
Autour d'un fruit.
Oui, c'est vrai.
Non, on utilise aussi beaucoup la vidéo chez nous, ce qu'on ne faisait pas, par exemple, en 2008. C'est aussi une nouveauté. Vous demandiez tout à l'heure les nouveautés. Donc ça, les vidéos, aujourd'hui, c'est quelque chose d'important pour les internautes. Et il y a beaucoup de vidéos comme ça qui peuvent faire le buzz sur des interventions... ou sur des choses un peu insolites, on va dire.
Yves Trécadur.
Ouais, une petite parenthèse, mais on a un petit instrument, une petite rubrique du samedi qui nous permet bien des libertés. On parlait du off tout à l'heure, et on a une rubrique d'écho qui s'appelle Les Douceurs Angevines.
Et qui n'a rien à voir avec une confiserie, d'ailleurs.
Non, rien du tout. En général, c'est parfois difficile à digérer, mais enfin, l'objectif est plus modeste, c'est de faire sourire. Et il y a tout un tas de petites infos comme ça que nous, on utilise comme ça, voilà, de cette manière-là. Et c'est plutôt amusant parce que souvent, les gens, même si on dit du mal d'eux, aiment bien y figurer. Voilà.
Quelle place vous allez donner au sondage dans vos journaux respectifs à l'approche du premier tour?
Nous, aucune. On ne commandera pas de sondage à Ouest France. Maintenant, s'il existe des sondages, je ne dis pas qu'on ne les commentera pas, puisque ce sera le cas. Il y aura des sondages qui seront proposés d'ici quelques semaines par d'autres médias que nous. Après, nous, on n'en fera pas, en tout cas, on n'en fera pas faire.
Pour quelle raison?
C'est souvent très compliqué, ça peut être... Et je vois Yves qui sourit parce que eux-mêmes avaient proposé un sondage en 2008, mais il vous en parlera tout à l'heure. Mais
j'étais pas là.
En fonction du moment où on fait le sondage dans une campagne municipale, on peut très bien se tromper. Il peut y avoir des écarts énormes et c'est souvent très très casse-gueule, quoi. Voilà.
Alors, non, mais c'est le cas. C'est vrai que le Courrier de l'Ouest en 2008 avait commandé plusieurs sondages. Et il s'est avéré que le résultat final était très différent de ce que le sondage avait révélé. Et comme on avait en l'occurrence donné un écart assez grand à Jean-Claude Antonini, qui devait être élu dans un fauteuil, et on sait ce qu'il est advenu, il a été élu avec 300 voix d'écart. Hein, donc,
et je crois que le sondage, il disait 58-42.
Voilà, non, mais c'était, il y avait eu du 60-40. Et au final, ça s'est joué à très peu de voix. Et du coup, on est venu nous dire, mais votre sondage, là, vous ne pensez pas qu'il a un peu découragé certains électeurs et encouragé d'autres? Voilà. Donc c'est vrai que c'est un peu périlleux. Nous, on ne s'aventurera plus sur ce terrain-là. Et on a choisi d'autres options. Hein, voilà.
Lesquelles?
C'est les surprises.
Encore des surprises.
Mais oui, toujours les mêmes. Non, mais on va notamment... Dans les communes rurales, on va aller un peu à la rencontre des électeurs avec une espèce de boîte à questions, et, voilà, où on va leur permettre de s'exprimer, de dire un petit peu ce que eux attendent de cette élection et de leurs élus. L'idée, c'est vraiment de donner à nos lecteurs la parole, parce que nos lecteurs sont aussi des électeurs, et puis qu'ils puissent exprimer quelque chose d'un peu moins officiel, un peu moins construit, mais quelque chose qui leur tient à cœur et qui leur paraît important à eux.
Yves Boiteau,
pas de sondage chez nous, pour la bonne et simple raison d'abord qu'on n'a absolument pas les moyens de s'en payer. Et puis quand bien même, je ne suis pas sûr qu'on en ferait un. Donc par contre, en revanche, comme Arnaud, si y a des sondages qui sont faits, on étudiera au cas par cas s'il mérite qu'on les traite, mais certainement qu'on s'en fera l'écho.
Dans le sens de ce que disait Yves tout à l'heure aussi, nous on mène une action dans les quartiers, là, dans le cadre de ces municipales-là, on délocalise une rédaction, notre rédaction, celle d'Angers, dans 3 quartiers différents, pour justement aller prendre le pouls des habitants dans ces quartiers-là, en vue des municipales. Voilà, c'est assez intéressant.
La parole aux électeurs, donc en fait dans les 3 titres, pour en vue de ces élections.
Oui, mais c'est légitime en même temps. Hein. Voilà, on n'est pas là que pour parler en théoricien de la politique locale et des dossiers avec le vocabulaire de nos chers élus qui ont, eux, les rapports de leurs techniciens. Enfin bref, si on veut rester un peu en prise avec la population, avec nos lecteurs, avec les électeurs, hein, il faut aussi et surtout s'intéresser à eux.
On va marquer une courte pause dans cette discussion avec Kendra Morris, Right Now. Thank you. Comme tous les lundis à 19h30, on retrouve notre chroniqueuse économie, Anne-Marie. Bonsoir.
Bonsoir.
Cette semaine, tu évoques la question des gaz de schiste. Le Premier ministre de Grande-Bretagne, David Cameron, a aujourd'hui annoncé que des avantages fiscaux pourraient être donnés aux communes qui acceptent d'exploiter du gaz de schiste. Alors c'est quoi ces avantages ?
Alors ces avantages fiscaux consisteraient au reversement aux communes de la totalité de la taxe professionnelle, et non pas les 50% habituels. On parle ici, selon des sources gouvernementales, de 2 millions d'euros supplémentaires par an pour chaque site exploré. David Cameron a déclaré « Nous mettons tout en œuvre pour le gaz de schiste ». À cela, il a rajouté « Cette industrie est le synonyme de plus d'emplois et de plus d'opportunités et de sécurité économique pour notre pays ». Hier, le secrétaire d'État chargé du commerce, Michael Fallon, avait déjà dit dans le journal Sun on Sunday « Le pays doit profiter des opportunités favorables offertes par le gaz de schiste ». Pour le gouvernement britannique, investir aujourd'hui dans le gaz de schiste pourrait nettement améliorer l'économie du pays. Comme en 70, quand la Grande-Bretagne avait décidé d'exploiter des gisements de pétrole dans la mer du Nord. À l'époque, cela avait permis au pays de sortir d'une stagnation de l'économie. Michael Fallon a ajouté « C'est une chance comparable de créer des dizaines de milliers d'emplois et la sécurité énergétique avec le gaz de schiste ».
Est-ce qu'il y a eu des réactions contre cette annonce ?
Alors oui. Pour les défenseurs environnementaux, il s'agit d'une tentative de corruption des autorités locales. Laurence Carter de Greenpeace a réagi en disant « Cameron dit de fait aux municipalités d'ignorer les risques et la menace d'une industrialisation à grande échelle en échange de monnaie sonnante et trébuchante ». Et à cela, il a rajouté « Le gouvernement a désormais recours à la corruption pour vendre sa politique très impopulaire » favorable à la fracturation hydraulique.
Bon, mais le gaz de schiste, concrètement, qu'est-ce que c'est ?
Alors, le gaz de schiste, c'est un gaz naturel enfoui très profondément sous terre depuis des milliards d'années. On trouve ce gaz dans certains schistes, d'où son nom, c'est une roche qu'on trouve sous terre, dans des bassins sédimentaires. C'est-à-dire qu'une portion de la croûte terrestre, c'est la dernière enveloppe de la Terre, s'est affaissée à certains endroits pour former une cuvette. Et donc, le gaz de schiste, n'est pas retenu sous une couche imperméable, comme c'est le cas pour les gisements dits conventionnels de gaz ou de pétrole. Le gaz de schiste est en fait enfermé dans la roche. Donc dans cette cuvette, on a une première couche, la croûte terrestre, puis il y a une couche imperméable. Cette dernière couche retient du gaz et de l'huile qui sont remontés. Et après, il y a des roches dans lesquelles se trouve le fameux gaz.
Et justement, comment on l'extrait, ce gaz ?
Pour l'instant, il n'y a qu'un seul moyen qui est utilisé. Il consiste à créer des fissures souterraines en injectant un mélange d'eau, de sable et de produits chimiques à haute pression pour libérer les hydrocarbures, c'est difficile, le schiste. Ce moyen est mis en œuvre aux États-Unis depuis les années 80, mais une fracturation nécessite 15 000 mètres cubes de litres d'eau, soit 4 piscines olympiques. Une fracture peut être répétée 10 fois sur un même puits. On extrait moins de gaz par ce moyen que par celui conventionnel avec les gisements. Par contre, les zones concernées sont immenses. Évidemment, l'extraction du gaz de schiste est chère et polluante. Elle entraîne des risques environnementaux, aussi bien en surface que sous terre. Il y a notamment un risque de contamination des nappes phréatiques et de mini-séisme.
Actuellement, on estime à combien la superficie de gaz de schiste dans le monde ?
Comme je l'ai dit, les réserves de gaz de schiste sont considérables. Plus de 185 000 milliards de mètres cubes sur tout le globe, ce qui constitue 49 milliards de piscines, quand même, olympiques. Et les pays en ayant le plus sont la Chine, avec 20%, et les États-Unis avec 13%. En Europe, la Pologne et la France sont à égalité avec 3% de gaz de schiste pour chacune.
Et en France, quels seraient les avantages de l'exploitation de puits de gaz de schiste ?
Alors, les réserves de gaz sous le sol français permettraient une indépendance énergétique de plus d'un siècle. Mais pas que. Premier point, il y aurait une création d'emplois. Aux États-Unis, 600 000 travailleurs dépendent de l'extraction du gaz de schiste. Et entre 2012 et 2015, on évaluait à 900 000 autres emplois qui auraient été créés et qui seront créés. Deuxième point, la France baisserait ses dépenses énergétiques. La facture d'importation de gaz en France est élevée à 68,5 milliards d'euros en 2012, soit 7 milliards de plus qu'en 2011. Actuellement, le pays est complètement dépendant de ses importations. Troisième point, il y aurait une baisse du prix de l'énergie. Aux États-Unis, l'exploitation du gaz de schiste a provoqué un effondrement des prix. Le gaz est 3 à 4 fois moins cher, ce qui a permis au pays de devenir plus compétitif dans le secteur. Pour info, en France, une loi de 2011 interdit l'exploitation du gaz de schiste par la fracturation hydraulique, et François Hollande a déjà refusé cette demande de permis d'exploitation. Alors, risque écologique ou enjeu social et politique, exploiter ou non les gaz de schiste est un vrai choix politique.
Notons juste que Total a annoncé aujourd'hui qu'il allait devenir la première grande compagnie pétrolière à rechercher du gaz de schiste en Grande-Bretagne. Merci Anne-Marie pour ces explications. Retour dans le scaphandrier avec nos trois invités, Arnaud Vajdic de West France, Yves Boiteau d'Angers Mag et Yves Trécadurant du Courrier de l'Ouest pour parler des municipales et de leur traitement médiatique. Alors, il y a deux candidats qui sont particulièrement présents sur la scène médiatique et puis il y en a un, à l'inverse, qui est quasiment invisible pour l'instant. C'est Gaëtan Dirand, très discret sur le plan de la communication, le candidat FN. Comment on fait pour essayer d'être suffisamment équitable quand on n'a pas d'infos venant d'un candidat?
C'est vrai qu'ils font pas campagne, donc c'est difficile de le voir apparaître dans nos colonnes. Maintenant, quand on fait des sujets, on va dire, plus d'analyse, etc., on le sollicite. Bon, alors maintenant, il répond ou il répond pas. On l'avait fait, par exemple, dans le quartier de la Roseraie. On voulait avoir l'avis des candidats sur quartier, les projets éventuellement proposés par les différents candidats. Il n'avait pas répondu à nos sollicitations. Donc on peut pas écrire ce qu'on connaît pas. Maintenant, c'est un vrai souci, ou pas, je sais pas. Enfin, en tout cas, le fait qu'il fasse pas campagne, oui, effectivement, on le ressent comme ça. Oui.
En termes d'équité d'information, comment vous faites un GMAV?
Ah ben nous, il n'y a aucune équité par rapport au Front National pour l'instant, voilà, c'est clair, parce qu'on s'y est très peu intéressé et qu'il n'est pas forcément demandeur, mais ça ne saurait tarder. Donc si on avait à mettre à plat la place qu'on donne à tel ou tel candidat, on serait complètement, je pense qu'on serait déséquilibré, c'est une évidence. Maintenant, on n'est pas soumis dans l'immédiat, même s'il y a une recherche d'équité de principe, on n'est pas soumis dans l'immédiat à cette obligation d'équité, en tout cas pas tout de suite.
Ça va venir, ça? Parce que le CSA, ça s'applique à la télévision et à la radio. En termes de presse écrite, vous avez des contraintes?
Alors, ça va s'appliquer... très exactement...
Les contraintes d'équité, on se les fixe nous-mêmes, on va dire. Ces contraintes-là, on se les fixe nous-mêmes.
Mais en termes de loi, de règles?
Non, je crois pas qu'il y ait de loi pour la presse écrite. C'est uniquement pour l'audiovisuel. Ouais, en revanche, nous, on se fixe des vraies règles d'équité qui sont d'accorder la même place à l'annonce, pour l'annonce, par exemple, des candidatures, pour la présentation des listes. Qui doivent être, en tout cas chez nous, complètes. On ne va pas présenter les listes par petit bout, voilà, à West France. Donc c'est des règles qu'on se fixe nous-mêmes.
Ouais, disons que l'équité, on y fait plus attention à partir du moment où les listes sont déposées, où la campagne officiellement démarre véritablement, même si elle a déjà démarré.
Oui, mais ça arrive très tard, donc forcément, on est obligé quand même de faire attention avant. Enfin, on ne peut pas se permettre de donner beaucoup plus de place à deux candidats parce qu'ils sont plus exposés, plus encadrés, avec des partis derrière eux. Voilà, donc le Front National pour en parler. Bon, ce qu'on a fait nous, c'est que on a commencé l'an dernier à faire des interviews de tous ceux qui pouvaient être concernés. Alors c'était pas forcément les candidats en tant que tels, mais des gens qui représentaient leur parti ou la tendance qu'ils entendaient défendre. Maintenant, quand on va vers le Front National, comme on l'a fait il y a quelque temps, c'est vrai que eux sont assez prudents vis-à-vis de nous. Ils répondent pas forcément, ils répondent parfois, ils nous reprochent de pas passer leur communiqué, mais ça, on passe pas les communiqués de tous les candidats, on en passe de manière très sélective selon l'intérêt. Néanmoins, effectivement, on les sollicite quand il y a des sujets, et là, on va avoir des questions à leur poser, et voilà. Après, si eux ne souhaitent pas répondre, on peut pas les forcer. Maintenant, notre devoir à nous, c'est de les solliciter.
Alors, personnellement, la campagne, pour l'instant, je la trouve assez sereine, plutôt calme. On se serre la main, on se fait presque la bise. Est-ce qu'à un moment donné,
on est arrangé, hein.
Ça va s'énerver, ça va être un peu plus virulent, ou ça va être une campagne sereine, cordiale?
Je trouve aussi qu'elle manque d'intensité, cette campagne. Moi, vous parliez de la comparaison avec 2008. On avait commencé fort, hein, avec des trahisons, avec des adjoints qui ont démissionné, avec des projets qui étaient vraiment fondamentalement différents d'un candidat à l'autre. Le tramway qui était remis en question, par exemple, le stade. Ça, c'était vraiment des sujets qui marquaient les esprits, hein, en termes, pas de buzz, mais oui, presque de buzz. Là, cette fois-ci, on a des projets, mais ce sera pas la même. Il y a la crise qui est passée par là depuis 2008, et les projets ne seront pas les mêmes. Ce sera pas des projets forcément extraordinaires. Et puis, sur la continuité des travaux sur le tramway, ils sont presque tous d'accord sur la ligne, par exemple. On sait que ce sera forcément beaucoup aimé mon plaisir. Il n'y a pas trop de suspense, si ce n'est une petite variation dans le passage par le centre-ville. Voilà, on sent que...
Belle-Baye, mon plaisir, plutôt que beaucoup aimé mon plaisir.
Beaucoup aimé, c'était au départ, il y avait le projet de départ, c'était beaucoup aimé. Mais c'est Belle-Baye, mon plaisir, effectivement. T'as raison, Yves.
Alors, c'est dur à rendre sexy.
Un premier bout de deuxième ligne, quoi.
Mais c'est, oui.
Est-ce que c'est dur à rendre sexy, alors? Campagne un peu molle.
Je trouve que pour l'instant, oui, c'est dur à rendre sexy. Oui.
Moi, ça me gêne pas tellement.
Un G-Mag.
Moi, ça me gêne pas tellement parce que moi, je pense qu'il y a aussi ils s'obligent à une certaine réserve, les candidats, parce qu'ils savent très bien qu'on est dans une société où la désaffection du politique, elle est extrêmement forte, et qu'ici, s'ils se mettent à jouer au malin et à s'envoyer des coups bas, alors que déjà les gens se méfient d'eux, je pense qu'il y a un risque aussi à ce que des gens se détournent complètement d'eux, quoi.
Ouais, vous avez un peu la mémoire un peu courte, parce que il y a eu quand même des documents qui ont été, qu'on a retrouvés dans les mains de la minorité municipale, qui s'est fait fort de les exploiter. On parlait tout à l'heure des documents émanant des cabinets de consultants parisiens, qui conseillaient notamment d'utiliser l'argument financier face à une presse exsangue pour faire pression. La majorité accuse la minorité d'être allée voler les documents sur l'ordinateur même du maire. Enfin, je veux dire, il y a quand même eu quelques coups un petit peu saignants, comme il y avait eu la compilation Angers-Danger qui avait été sortie il y a un an pour dresser évidemment un bilan extrêmement négatif de la mandature. Donc il y a quand même des coups sur les réseaux sociaux aussi, on en parlait tout à l'heure, mais il y a des blogs plutôt bien informés et il y en a qui sont très bien informés. Moi je suis persuadé que dans la liste, il y en a qui sont extrêmement bien documentés, et c'est évidemment c'est pas des amateurs qui font ça. Donc voilà, c'est des opérations de déstabilisation, mais de manière anonyme et via les réseaux sociaux. Donc ça existe quand même, quoi. C'est pas que les jolis sourires qu'on peut voir notamment à la dernière cérémonie de vœux, ou contraint de ne pouvoir parler de rien parce que la campagne l'obligeait à ne pas dresser de bilan, le maire a fait un discours d'un rare inintérêt, et où les autres candidats ont été obligés de dire combien il avait raison de dire quand j'ai été belle, quoi. Voilà. Donc il y a ce côté un peu angevin qui consiste à se dire bonjour poliment, et puis il y a aussi cette vieille volonté de donner des coups de poignard derrière les tentures.
Dernière question, il nous reste une minute, il va falloir aller vite. Votre pronostic pour le mois de mars, ça va être rapide, je pense, parce que...
Deux mois. Le mois de mars.
On a déjà posé la question sur une chaîne de télé. Pour moi, les vents sont favorables pour Christophe Béchu, plus que jamais, j'ai envie de dire. Vu le score qu'il a réalisé en 2008 avec un contexte national qui lui était très défavorable et une gauche qui n'était pas divisée à l'époque, je pense que cette fois-ci, il a toutes ses chances. Maintenant, il peut se passer d'autres événements. C'est mon pronostic. Voilà.
Pronostic d'Arnaud Vajdic.
C'est pas forcément mon souhait, attention, c'est mon pronostic.
Pronostic,
moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. C'est-à-dire que, effectivement, il est arrivé dans la peau du favori, mais je trouve qu'il fait pas une très très bonne campagne. Il a attaqué avec des projets qui sont pas forcément très séduisants. Un projet de musée d'art moderne dans la prison qui paraît complètement décalé avec la réalité des finances publiques. Et Frédéric Béatz, lui, joue une campagne qui est peut-être plutôt plus maligne. Plutôt que d'avoir une grande permanence au centre-ville, il y en a trois dans les quartiers. Je pense qu'il est assez habile pour pas rentrer dans le jeu des petites phrases, la tentation à laquelle Christophe Béchu a eu du mal à résister. Et puis il y a un aspect qui va compter beaucoup, c'est-à-dire que si le Front National, en l'occurrence, arrive à avoir le nombre de candidats suffisants, il faut quand même se souvenir que cette année, il faudra que 10% des inscrits pour être au deuxième tour. Et si le Front National est au deuxième tour, ça modifie vraiment la donne en faveur de Frédéric Béatz. Sans compter que Christophe Béchu, lui, a fermé sa liste entre le premier et le deuxième tour et qu'il disposera d'aucune réserve de voix.
Moi, je ne me hasarderai pas à un pronostic non plus. Je rejoins assez l'analyse de Yves, par contre, pour pondérer l'idée que les vents sont favorables à Christophe Béchu. Mais à la fois, moi, je m'en tiens au fait. C'est vrai que les exemples d'élections où on a deux candidats, entre guillemets, sérieux à gauche, alors il y en a deux à droite, on pourrait le dire, mais je donne un peu moins d'audience à Laurent Giraud, peut-être en me trompant, j'en sais rien. Mais les contre-exemples où un candidat de gauche l'emporterait dans cette configuration sont pas tellement fréquentes, quoi. Donc, peut-être que Frédéric Béatz ou Jean-Luc Rotureau fera mentir les faits, mais effectivement, j'ai plutôt tendance à penser que les vents sont favorables aussi à Christophe Béchu d'un point de vue aussi d'arithmétique politique, quoi.
Merci beaucoup à vous trois, Yves Tréca-Durand du Courrier de l'Ouest, Yves Boiteau d'Angémac et Arnaud Vajdic de Ouest-France d'avoir participé au sous-marin ce soir.
Mais merci.
Merci.
Comme on est un peu en retard, on ne va pas trop écouter de musique là en cette fin d'émission. On va tout de suite passer au journal des sports enregistré cet après-midi par Charlotte. Julien n'est pas là dans le micro, mais Charlotte est bien au rendez-vous pour ce débrief du week-end sportif en studio cet après-midi. À l'heure où le Ballon d'Or et son détenteur sont sur toutes les lèvres, nous avons décidé de boycotter à la Ronaldo ou à la Messi, enfin presque. On vous en parlera plus longuement la semaine prochaine, quand tout le monde aura rajouté son grain de sel à coups de « je savais que ça allait être Ribéry ». Oui, oui. En tout cas, loin des hautes sphères footballistiques, le programme de ce soir se veut plus proche du peuple angevin, où les municipales approchent et ça déteint un peu. Bref, entre le SCO, les Ducs en méga forme et l'UFAB, on a de quoi se régaler. Et puis bon, un peu de foot supplémentaire, ça ne fait pas de mal. Hein. Allez, on commence avec le SCO qui jouait ce samedi contre Nancy.
Et oui, ça y est, la phase aller des matchs de Ligue 2 est finie. Et à la 19e journée, Angers a réussi à remonter à la deuxième place du classement après un match nul contre Nancy. C'est par l'intermédiaire de Blayac que le SCO a ouvert le score à la demi-heure de jeu, ce qui était plutôt de bon augure. Mais ce cher Walter, oui vous savez le joueur de Nancy, en a décidé autrement. Et avant le début du dernier quart d'heure de jeu a porté le coup fatal. Oui bon, il a marqué quoi, et donc a permis à Nancy d'égaliser. Un partout, c'est donc le score final de ce match. Et la fin des matchs aller annonce l'heure des analyses. Angers finit 5e attaque et 9e défense, et le SCO est également meilleure équipe à l'extérieur. On espère que cela va continuer pour les phases retour. En attendant, le SCO se déplace vendredi prochain à Châteauroux, et au vu des statistiques, ça s'annonce plutôt bien, enfin on l'espère.
Semaine cruciale pour nos Ducs d'Angers, ils avaient rendez-vous deux fois avec l'Étoile Noire de Strasbourg, en début de semaine pour une place en finale en Coupe de France et samedi en championnat. Mardi soir, la patinoire du Haras était pleine à craquer pour la demi-finale de Coupe de France.
C'est vrai, Tiffany, une rencontre à enjeu comme on les aime. Après un match très disputé, nos Ducs s'imposent face aux Strasbourgeois sur le score de 4-2.
On est en finale.
Qu'est-ce qu'il faut pas faire, hein ? Bon, nos hockeyeurs retournent à Bercy pour la deuxième année consécutive. L'année dernière, les Diables Rouges de Briançon nous avaient battus sur la glace parisienne. Alors cette fois-ci, il ne faudra pas rater le coche. Angers affrontera les Dragons de Rouen, l'équipe référence en France. Rendez-vous le 26 janvier pour une rencontre qui s'annonce dantesque.
Pour voir le match, deux solutions. Le club organise un déplacement avec les supporters ou alors se brancher sur l'équipe 21 tranquillement dans son canapé à 15h le 26. On prend les mêmes et on recommence samedi pour le compte de la 19e journée de championnat.
Malheureusement pour les Strasbourgeois, nos Ducs sont sans pitié en ce début d'année. Ils enchaînent une 4e victoire consécutive en battant de nouveau l'Étoile Noire sur le score de 5-3. Angers confirme sa place de 3e et se rendra en Bourgogne mardi soir pour la 20e journée de Ligue Magnus.
L'heure de la reprise a sonné pour nos hockeyeurs sur roulette. Ils jouent à samedi contre Anglette.
Les Hawks sont toujours au top, ils s'imposent 6-2 et se classent 2e du championnat. On vous l'a déjà dit, mais allez les voir, ça vaut vraiment le coup.
Actu basket maintenant, l'ABC ne reprend que demain soir contre Cognac, mais les filles avaient, elles, rendez-vous avec Bourges samedi soir.
Bourges, c'est l'ogre du basket féminin. Un bilan de 12 victoires pour seulement une défaite en championnat avant la rencontre, de nombreuses joueuses de l'équipe de France dans l'équipe, bref, la marche était haute pour les filles de David Girandière. Après une belle première mi-temps, nos filles ont fléchi en deuxième période pour s'incliner finalement sur le score de 76-55. Un score honorable quand on sait qu'elle s'était inclinée de 40 points au match aller. Au-delà du score, on retient le soutien du public. 3000 personnes étaient là pour les supporter.
Comme quoi, à Angers, on aime aussi le basket. Bon, et sinon, oh joie, la Ligue 1 a repris depuis la dernière fois. On est donc arrivé à l'heure de la 20e journée et devinez quoi, Paris a encore gagné.
Eh oui, mais pas de but de Zlatan. Bon, il était là, il a bien aidé, mais pas de but pour lui. Il a laissé ce plaisir à ses deux coéquipiers, Lavezzi et Matuidi. Mais le PSG jouait contre Ajaccio et ces derniers ne leur ont pas non plus facilité la tâche puisque c'était Eduardo qui ouvre le score à la 6e minute. Mais la force du PSG a finalement vaincu. 2-1, c'est donc le résultat de ce match.
Donc le PSG est toujours premier, c'est ça ?
C'est ça, avec 47 points, suivi de Monaco avec 42 points. Monaco qui a d'ailleurs fait match nul ce week-end à Montpellier. En tout cas, Monaco est suivi de très très près par Lille avec ses 40 points.
Allez, c'est tout pour ce week-end, Charlotte.
Et c'est déjà pas mal.
En cette fin d'émission, voilà quelques conseils de sortie pour ce soir. Et forcément, comme tous les lundis, on commence la semaine avec le blind test du Donald's Pub. À 20h, c'est dans 10 minutes, pressez-vous. À 20h15, les 400 coups projettent le film La Dette de Nicolas Hubelmann et Sophie Mitrani. L'un des réalisateurs, Nicolas Hubelmann, sera présent pour présenter le film. Et enfin, dans le volet musique classique, l'ONPL donne un concert à 20h30 au Centre des Congrès autour des tubes de Strauss et Beethoven. Allez, on remonte à la surface. À la fin de ce sous-marin, ce soir, c'était David derrière les boutons. Et avec moi en studio, Anne-Marie, Charlotte était enregistrée. Vous pouvez nous réécouter demain à 13h ou en podcast sur notre site internet, le www.radiocampusangers.com. À 21h, vous retrouvez Misty, l'émission jazz de Radio Campus. Avant de vous quitter totalement, on vous laisse écouter la bulle sonore. Thibaut et Martin de l'émission du vendredi Ciné Qua Non parlent de Nymphomaniac, le nouveau film de Lars von Trier. La totalité de l'émission est bien sûr à retrouver sur notre site. Merci à vous d'avoir embarqué dans le sous-marin ce soir. Passez une très bonne soirée sur Campus. On se retrouve demain à 19h. Allez, bisous.
Qu'est-ce qu'il y a à en retenir? Déjà que par rapport donc au buzz qu'il a fait, ou, je cherche le mot, voilà, on attend un truc très très polémique. C'est assez sage finalement. On a pas tant de scènes de sexe que ça.
Ouais, mais elles sont bien crues.
Bah, c'est juste et ça fait plaisir que on voit des bites. Et c'est vrai que bon, après la qualité des scènes en termes de réalisme, ça varie un peu. Bon, c'est au final, je trouve que ça dépend.
Oui, c'est plus un terrain de jeu, je trouve un terrain expérimental pour chaque petit chapitre, parce que l'histoire est encore divisée en chapitres, comme on a pu voir dans
Antéchrist
particulièrement.
Mélancolia
aussi. Voilà. Enfin bref, c'est plein de petites histoires comme ça. Et à chaque fois, il utilise un moyen technique différent, mais à chaque fois, il rajoute quelque chose en plus, quoi. C'est des petites choses comme ça qui font penser en fait plus à une sorte de playground, quoi, où Lars von Trier s'essaye différents trucs.
La discussion un peu interminable entre Joe et Seligman, c'est vrai que ça intellectualise vachement la nymphomanie avec des métaphores filées
sur
chasse et pêche, des choses comme ça, sur la pêche, ouais. Sur la musique, sur... Bon, c'est...
Oui, mais en fait, il utilise des transitions, mais elles sont hyper lourdes, en fait, ces transitions. Oui. Bon, c'est... Oh tiens, regarde, j'ai du Edgar Allan Poe. Et si tu me parlais d'Edgar Allan Poe à travers ton histoire, mais c'est vrai que c'est...
Je pense que voilà, j'ai pas vu le second degré ou...
Ouais, je pense pas... Je sais pas si c'est un second degré ou pas venant de Lars von Trier, mais en tout cas, je peux comprendre que c'est lourd, en fait, ce genre de transition.
Mais c'est vrai qu'on en c'est intéressant, parce que du coup, j'en suis sorti un peu déçu, quand même, par le manque d'intérêt que j'avais trouvé. Mm-hmm. Et en discutant avec toi, et du coup en voyant ces nouvelles choses là, c'est vrai que ça m'interpelle, et du coup c'est très très appréciable au final qu'un film sur le coup ne fasse pas grand chose. C'est un peu ça avec Inside Llewyn Davis des frères Coen aussi, c'est sur le coup ça se passe comme ça, et puis qu'après coup on y revienne, et c'est vrai que je continuerai à y réfléchir.
Par contre, on attend impatiemment le volume 2 qui sort le 29 janvier.
Il y a quelques images à la fin, en fait, voilà, quelques scènes qui sont filmées à côté du générique à la fin de la partie 1, et ça a vraiment l'air super, quoi. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine.